Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay.
Bonsoir tout le monde, c'est Benjamin pour les commissaires de course, avec moi ce soir Charles, bonsoir Charles.
Salut Ben, bonsoir à tous.
Également Daniel, bonsoir Daniel.
Salut tout le monde.
Et enfin Greg, bonsoir Greg.
Bonsoir tout le monde.
Alors ben aujourd'hui on va parler de la seconde étape, Bruxelles-Bruxelles, qu'on la monte par équipe, on reste à Bruxelles hein, comme les coureurs. Et le premier rendez-vous des équipes des favoris avec la team Jumbo-Visma qui a explosé le chrono devant la team Ineos et Deceuninck Quick-Step qui se tiennent à 20 secondes, à 20 et 21 secondes. Puis vient la Katusha surprise, la Sunweb. Et les autres équipes, je ne vais, vais pas citer toutes les équipes non plus. Alors ben, pour commencer, Daniel, on en parlait hier de la team Jumbo. Je disais que... ils avaient déçu l'an dernier, tu me disais non, c'est pas la même équipe. Est-ce que tu t'attendais quand même à ce qu'ils écrasent à ce point le chrono?
Ah, j'espérais secrètement effectivement une victoire. Mine de rien, par rapport à l'an dernier, il ne faut pas non plus négliger l'apport de Tony Martin, qui est quand même, bon, même s'il a perdu un peu de sa superbe individuellement, mais pour un contre-la-montre par équipe, il apporte quand même de l'expérience, de l'organisation et de la sérénité. C'est ce que tout le monde a souligné aujourd'hui. Bon après on voyait que c'était une équipe quand même des gros rouleurs, même Tennyson qui était en grande forme et qui a fait pas mal de performances sur les contre-la-montre ces derniers temps, donc bon, comme je l'espérais hier, effectivement ils ont confirmé. Bon, vous parlez souvent, je lis souvent qu'ils ont explosé le chrono, effectivement ils ont fait un petit écart par rapport au reste de la meute, mais bon c'est pas un écart de ouf non plus, voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses.
Ben, c'est surtout qu'en fait tout le monde se tient en peu de temps et eux sont quand même bien au-dessus. C'est les seuls qui ont roulé à plus de 57 km/h. Charles, est-ce que toi tu vois, avant qu'on parle un peu plus dans les détails des équipes, d'autres choses qui t'ont surprise? Est-ce que par exemple tu voyais plus, je crois que tu voyais toi la Ineos gagner, ben, finalement ça s'est passé à une équipe.
Ouais, je sais plus si je voyais la Ineos gagner, j'ai oublié ce que j'ai dit avant l'étape, mais ce qui m'a marqué, moi, c'est que, enfin, je me suis trompé, à vrai dire, je pensais qu'il y aurait des écarts beaucoup plus élevés pour ce chrono, et finalement, bah, vous l'avez un peu dit, on voit que ça se tient en pas grand-chose, et c'est une bonne chose pour le suspense. Moi, je pensais sincèrement, bah, je vous l'avais dit d'ailleurs avant l'émission, qu'AG2R, enfin avant l'étape, pardon, AG2R serait peut-être à 1 minute 30, voire 2 minutes, et j'avais vu que je n'étais pas le seul forcément à penser ça. Et finalement, on voit que c'est resserré, et on parlera du général tout à l'heure, mais il n'y a pas grand monde qui a plus d'une minute de retard sur Bernal et Thomas, donc c'est plus ça qui m'a marqué, en fait, si je devais retenir un élément de ce chrono par équipe.
Greg, est-ce que toi, tu as pu voir l'étape?
Oui, j'ai vu l'étape, oui.
Et t'es en vacances?
Eh oui.
Eh oui, c'est l'éducation nationale. Mais non, ce qui était surprenant avec ce contre-la-montre, on en parlait hier, c'est également que la team Ineos partant en première, on ne savait pas trop si ils avaient fait un gros temps ou pas. Surtout que les premières équipes qui arrivaient derrière l'étonnaient, notamment la Groupama qui fait une super performance.
Ben oui, c'est vrai qu'enfin quand on part premier, c'est toujours délicat. Même je pense que ça joue moins que sur les chronos individuels. Ils sont préparés, ils connaissent leur moyenne, ils l'avaient bien préparé. Je pense qu'on peut faire confiance au team Ineos là-dessus. C'est quand même l'équipe spécialiste des gains marginaux, comme on dit, hein, qui ne laisse rien au hasard. Donc là-dessus, je ne sais pas si ça a vraiment joué. On a un peu parlé du vent. Hein, alors je ne sais pas si ça a vraiment joué, si le vent devait se renforcer, le vent de face en fin d'étape. Je ne sais pas si c'est réellement, si ce qui s'est réellement produit ou pas. En tout cas, c'était les prévisions. Mais donc, alors, pour rebondir à ta question, est-ce que comme les autres commissaires de course. Je trouve que voilà, la Jumbo-Visma a quand même été 20 secondes sur tous les autres. C'est quand même pas mal. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui auraient pronostiqué un tel écart sur un contre-la-montre qui n'était pas si long et pas difficile.
Alors, on est étonné par les écarts réduits. On n'a pas trop su lire la course. Finalement, même en préparant l'émission, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on allait pouvoir dire. Parce qu'au final, les écarts sont quand même assez resserrés, même s'il y a deux favoris qui ont perdu un peu de temps. La question, Daniel, c'est est-ce qu'un contre-la-montre par équipe comme ça, vraiment pour rouleur, très peu technique, peu de dénivelé. Il y avait surtout ce faux plat, pardon, sur la fin, mais hormis cela, c'était quand même pas très dur. Est-ce que c'est un véritable intérêt?
Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser, parce que bon, moi je fais pas partie de ceux qui détestent le contre-la-montre par équipe. Je trouve que c'est une belle épreuve.
Et que ça c'est un Hollandais qui parle.
Voilà. Mais quand c'est une distance un peu réduite comme ça, qu'il n'y a pas d'écart, on se dit à quoi bon. Enfin, est-ce qu'on fait un contre-la-montre par équipe pour qu'il y ait des écarts, ou est-ce qu'on en fait un pour qu'il n'y ait pas d'écart? Enfin, il faut un peu savoir. Si on regarde dans les années 2000, il y avait des distances beaucoup plus longues. Souvent, ça dépassait les 60 km. Les écarts étaient légèrement plus élevés, mais pas tant que ça non plus entre les grosses équipes. C'était plutôt les équipes à la Euskaltel qui perdaient gros sur les contre-la-montre par équipe. Donc là, sur celui d'aujourd'hui, je sais pas, je suis un peu ni figue ni raisin, quoi.
Charles, tu voulais réagir?
Ouais, je suis un peu comme Daniel, je ne peux pas non plus critiquer, parce que c'est aussi un exercice que je trouve esthétiquement assez sympa à regarder. Mais plus que la distance, là où j'aurais un petit désaccord avec Daniel, c'est plus que moi j'aurais bien aimé voir un parcours technique, beaucoup plus technique, avec plus de relances, peut-être plus de virages, etc. Enfin, sans quoi que ce soit dangereux, hein, bien entendu, qu'on se méprenne pas.
Tu veux la mort des Education First, en fait.
Ouais. Non, non, et d'ailleurs, ils progressent beaucoup, les Education First, depuis le début de l'année, sur les chronos par équipe. Mais non, blague à part, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les mecs, c'est tous des professionnels qui ont finalement un niveau physique qui est pas beaucoup, qui est pas vraiment différent en fait les uns par rapport aux autres. Donc si on procure par exemple, ou si on donne un parcours assez facile à des coureurs de ce niveau-là, et ben forcément, comme c'est la puissance qui parle, on n'aura pas beaucoup d'écart. Alors forcément également, les équipes les moins fortes ou les moins homogènes seront moins désavantagées, et c'est peut-être ça qui est un peu dommage. Moi j'aurais vraiment aimé dans cette optique un parcours plus compliqué, avec plus de relance, où justement des équipes qui performent et qui bossent vraiment cet exercice, en fait, arrivent à faire des différences. Parce que au final, on voit G2R qui dit bah non, nous le chrono par équipe, de toute façon, on a décidé de plus trop le bosser, parce que de toute façon, en gros, on est nul et ça changera pas grand chose. Et on voit que le parcours leur donne raison, en fait. Donc, c'est un peu dommage, parce que par rapport à celles qui font vraiment l'effort, par exemple, on est souvent un petit peu dur avec Cofidis, surtout ces dernières semaines. On voit qu'il y a eu un vrai effort de fait, et au final, il gagne quoi? Allez, 20 secondes par rapport à AG2R, donc c'est pas forcément bien récompensé, je trouve.
Daniel, je crois que tu voulais réagir.
Ouais, non, en plus, moi je pensais aussi que ça pouvait faire des différences même entre les équipes qui ont des gros rouleurs, des grosses cuisses, et les équipes un peu plus frêles. Mais bon, finalement, chez AG2R, il n'y avait pas forcément de gros rouleurs. Certes, ils terminent parmi les derniers, mais les écarts restent limités. Je crois que ce genre de contre-la-montre s'inscrit bien dans la tendance qu'on voit notamment chez ASO ces dernières années. C'est-à-dire qu'on fait les étapes soi-disant importantes pour le classement général, mais au final, il se passe pas grand-chose, les écarts sont très limités et le suspense demeure jusqu'à l'étape 20, quoi, pour pas que les dés du Tour de France soient jetés trop rapidement.
Greg,
c'est ça, Greg. Oui, enfin, ce que j'allais dire là, avant que Daniel le dise, c'est que moi, je pense qu'ASO, ils sont contents de cette étape. Ils veulent pas que le Tour soit plié d'entrée, ils veulent les belles images, car c'est vrai que ça fait des belles images, hein, les contre-la-montre par équipe, c'est toujours spectaculaire et très visuel à voir. Ça fait des belles images de la ville de départ aussi. Mais il ne faut pas non plus, parce que si on en met un de 60 km, un beaucoup plus long ou un beaucoup plus technique et un favori qui se retrouve par terre, je pense qu'on serait moins content. Donc je pense que pour ASO, ils sont plutôt contents de ce profil-là. Ils ont fait ça, pour avoir de belles images et pas trop d'écart pour ne pas bien léser. Des coureurs, notamment des coureurs français qui souffrent un petit peu parfois.
Mais est-ce
sur ce type de parcours.
Est-ce que ce n'est pas également Forcément, quand on parle des contre-la-montre par équipe long, je pense que tout le monde a en tête, pour ceux qui l'ont vécu en 2001, le contre-la-montre qui passait par le pont de Saint-Nazaire, qui a offert de superbes images avec ce pont qui faisait office presque de montagne avec le vent qu'il parcourait et les coureurs qui explosaient dans toutes les équipes. Mais ce qu'a peur peut-être ASO, au-delà des coureurs français ou autres, c'est qu'une équipe comme la Ineos écrase complètement et que le tour soit joué avant même que la montagne ait commencé. Donc, est-ce que c'est pas à cause de ça également qu'on a une épreuve finalement comme ça? Parce que pour ma part, vous parlez d'esthétisme, tout ça. Moi, je vous avoue que des contre-la-montre par équipe urbain et des contre-la-montre même tout court urbain, je trouve pas ça beau, je trouve ça chiant en fait. Je suis peut-être le seul après hein, à penser ça. Mais je suis bien français.
Ouais, bah, je vais répondre en deux points. Si tu veux bien,
vas-y.
C'est que bah, c'est vrai que comme tu dis, on veut pas que soit Ineos gagne trop de temps, soit que certains coureurs, notamment des Français, n'en perdent pas trop. Je pense que si on compare au résultat du prologue à Düsseldorf, c'était quand, il y a 2 ans, je pense que sur le prologue, il y avait plus d'écart que sur un contre-la-montre de ce type. Quoi. Donc, c'est un peu étrange. Quoi. Et d'ailleurs, ils ont fait sauter le prologue pour le remplacer par le contre-la-montre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine tendance. Mais s'ils craignent que Ineos prenne trop d'avance sur le contre-la-montre par équipe, bah, ils ont qu'à le supprimer également. Tu vois. Donc bon, ça tourne un peu en rond, sans intérêt.
Charles, tu veux...
Ouais, mais en fait, le gros problème d'ASO pour moi, c'est qu'ils confondent suspense et spectacle, et ça, c'est toujours dommage. Enfin, on voit que les autres organisateurs, comme RCS et comme d'autres, tentent de faire des choses. Après, c'est peut-être des fois, c'est pas forcément bien, des fois, c'est mal pensé, mais au moins, il y a un effort d'inventivité en fait pour rendre un peu de pour redonner un peu de spectacle aux courses. Et malheureusement, chez ASO, on sent que c'est un espèce de vieux dinosaure qui est tellement sûr d'être la meilleure course du monde, et ça l'est, il n'y a pas photo là-dessus, qu'ils n'ont pas forcément besoin de se réinventer. Et c'est toujours un peu dommage, parce que souvent, on se rend compte que les courses les plus pourries de la saison, en fait, c'est les courses ASO, quoi. En termes de spectacle, hein, j'entends.
Et si je peux rebondir sur le deuxième point que je voulais évoquer tout à l'heure, sur les images, les belles images, le contre-la-montre, enfin, je trouve que la réalisation, ça date pas d'aujourd'hui, hein, mais je trouve que la réalisation sur les contre-la-montre, c'est relativement catastrophique. Toutes les 5 à 10 secondes, on change de plan, on change d'équipe, on ne suit plus la même équipe, ça saute de droite à gauche, sur les caméras embarquées sur les motos, donc on voit les coureurs, on voit leurs fesses ou la face du premier, mais on a vraiment du mal à suivre vraiment ce qui se passe. Moi, si je me souviens bien, dans les années 2000, on avait des plans d'hélicoptères assez longs, justement, notamment au niveau du pont de Saint-Nazaire, etc. Donc, on voyait comment ça tournait au sein d'une équipe, qui prenait des longs relais, qui appuyait fort, qui se reposait en fond de groupe, et aussi sur le contre-la-montre par équipe, il y a l'aspect technique pour se replacer une fois qu'on a pris le relais. Et tout ça, actuellement, on ne le voit absolument pas. On nous met comme si on était en live dans l'action.
Mais...
Si on nous emmerdait moins avec les églises, on verrait plus la course aussi.
Non, mais c'est peut-être également que vu que c'est urbain, c'est ouais. Compliqué de filmer parce que justement, le Bonne Saint-Nazaire, c'était des grandes routes dégagées également. Ouais. Tu pouvais filmer sur plus long. Et puis le contre-la-montre étant plus long, tu n'es pas obligé de zapper d'une équipe à l'autre pour essayer de montrer tout le monde. C'est peut-être ça. Bon, on va changer, on va parler maintenant des coureurs. On a parlé de la course, ce qu'on en pensait. Maintenant que la Jumbo-Visma a fait cet écart, Greg, est-ce qu'on peut voir, alors on parlera de Tennyson un peu plus tard quand on parlera de l'étape de demain, mais un Kreuzweig, comment tu vois la course pour sa part avec Bennett, tout ça? Est-ce que tu les vois faire comme Ineos, c'est-à-dire rouler derrière les échappés, ou il faut surtout pas qu'ils s'enferment là-dedans?
Ah ben je pense que là, ils vont essayer de le défendre, hein, vu leur position. Je pense que le maillot jaune, pour l'équipe de Jumbo, ça ne se refuse pas. Parce que parfois, on n'est pas prêt de le revoir. Enfin, on n'est pas prêt de le revoir non plus. Et donc, cette position-là, enfin, ils vont la défendre au moins jusqu'à... Enfin, après, à mon avis, ça changera peut-être à Colmar, surtout peut-être à la planche des belles filles. Il y aura peut-être plus de bagarres pour le maillot jaune. Mais jusqu'à ce moment-là, évidemment, ils vont rouler sur les échappées. D'autant plus qu'ils peuvent jouer les victoires d'étape. Hein, notamment, on en reparlera pour demain, mais je pense qu'ils visent aussi les victoires d'étape. Ils jouent sur les deux tableaux.
Je pense qu'il y a toutes les étapes qu'ils peuvent viser. C'est une rare équipe qui veut faire cela. Charles, dans les coureurs qui ont perdu du temps, il y a un coureur en qui tu ne crois pas et un coureur en qui tu crois. Il s'agit de Richie Porte. et Romain Bardet. Est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà définitif pour eux, ou est-ce qu'on peut espérer les voir plus offensifs pour essayer de grappiller des secondes ici et là, sans parler de grandes offensives, hein, qu'on soit d'accord.
J'y crois plus trop, malheureusement. J'ai encore un petit côté fanboy qui me donne quelques espoirs, mais quand j'essaye d'être un peu plus objectif, malheureusement, c'est pas gagné. Mais ouais, Porte et Bardet ont perdu beaucoup de temps. Romain Bardet, c'était un petit peu attendu. Enfin, je pense que tout le monde était assez d'accord pour dire que ça serait le dernier des favoris au classement général après cette étape. Et je l'ai dit tout à l'heure, finalement, la perte est assez limitée. Il pointe à 1,29 du général, sachant que Kreuzweg, pour moi, n'a aucune chance de gagner ou de faire podium. Je me baserai plus sur Bernal et Thomas, qui sont
oui, c'est sur
secondes.
Ineos qu'on se base.
Donc ça fait qu'il a 59 secondes du duo du team Ineos. Donc c'est beaucoup et peu à la fois. C'est peu parce que en termes de temps, c'est moins de la minute, mais c'est beaucoup parce que, en fait, comme je l'ai dit, c'est le dernier, c'est-à-dire que non seulement il doit rattraper 59 secondes sur le duo Ineos, mais il doit aussi rattraper la dizaine de mecs qui sont devant lui à 10, 20, 30 ou 40 secondes au classement général. Et sachant que Romain Bardet n'est pas capable de lâcher tout le monde en montagne, je pense. Et après, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec ça, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est pas possible qu'il gagne le Tour de France, mais je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui doutent justement de ça. Désolé pour la répétition.
D'accord. Daniel, la Ineos, lorsqu'elle fait son équipe pour le Tour de France, je trouvais personnellement qu'elle avait privilégié les coureurs qui roulaient vite, surtout. Puisqu'en vrai grimpeur, on a Bernal, Puls. Après, il y a Thomas, on l'a vu l'an dernier, et un Kwiatkowski qui est bon partout. Par rapport à ce choix, est-ce qu'on peut considérer que le fait de perdre 20 secondes sur la team Jumbo, mais en même temps être la première des autres équipes, c'est une bonne chose ou pas, sachant que les écarts, comme on l'a dit, sont quand même très réduits?
Ouais, mais comme tu l'as dit, je crois que la construction de l'équipe Ineos, c'est aussi quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années. Ils privilégient toujours des coureurs qui sont capables de rouler fort dans les contre-la-montre. On le voit régulièrement dans les contre-la-montre individuels. Parfois, ils sont 3, 4, voire 5 dans un top 10. Donc ça se retrouve aussi sur le contre-la-montre par équipe, et je crois qu'au Tour de France ils sont abonnés aux deuxièmes places, donc ça ne les change pas trop. Est-ce que ça peut être une déception quand on constitue une équipe vraiment dédiée à cette épreuve? Oui, peut-être, mais bon, je pense que c'est positif en se disant qu'ils battent quasiment, enfin ils battent tous les coureurs du général sauf celui de la Jumbo. Donc je pense que pour eux c'est une journée positive malgré tout.
Alors, par rapport à ce qu'a dit Daniel et cette équipe Ineos, Greg, et par rapport au temps maintenant entre les différents favoris avant la première étape vallonnée de demain, est-ce que tu sens qu'il va y avoir un grand changement par le fait que Chris Froome ne soit pas là? On rappelle que Chris Froome, il était sur tous les Tours de France avec Sky depuis 2012 inclus. C'est le premier Tour de France qu'il ne fait pas, puisque même en 2014, il abandonne assez tôt, mais il était présent, et d'ailleurs la Sky s'effondre derrière. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà un effet, et donc...
Oui, allô,
on a perdu, oui. Benjamin, est-ce qu'il y a un effet
absence de Froome? Eh bien, oui, je pense que ça joue, parce que c'était forcément déjà un très gros rouleur qui aurait eu un grand rôle pour ce contre-la-montre de lui par équipe, et ça enlève aussi en montagne un étage entre guillemets à la fusée Ineos. C'est-à-dire qu'on avait vu l'année dernière, tout comme d'habitude, la grande organisation Ineos qui terminait avec Bernal, Thomas et Froome, et là Froome n'est plus là, un peu comme Benjamin d'ailleurs.
Et non, je suis de retour, moi.
Froome t'a vaincu.
Ouais, mais non, j'ai vu le dépannage éclair et me revoilà.
Et donc pour moi, enfin, on verra comment aussi réalisent ses adversaires. C'est-à-dire que peut-être qu'on va voir des attaques dans la nôtre. Enfin, je pense notamment à la planche des belles filles. On va peut-être tester un peu plus le train Ineos, car il y aura, entre guillemets, un wagon dans le train en moins. Et j'espère, enfin, c'est un peu un mélange entre prédiction et espérance.
Moi, je pense pas que la physionomie changera forcément.
Je pense que ça va être testé, parce que Geraint Thomas ne paraît pas impérial. Il est tombé sur le Tour de Suisse. Donc, à un moment, on voudra le tester. Après, si personne ne veut les attaquer, bon, ben, on arrête et on regarde le Tour d'Autriche. Sinon,
La question, c'est est-ce que Ineos fait moins peur cette année que les autres années, oui ou non? Je pense que
moi, je pense que oui, ils font moins peur.
Voilà, un peu moins. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas peur, Charles.
Ouais, pour une raison assez simple pour moi, et on l'a pas mal évoqué lors de la présentation de la course, c'est que Thomas et Bernal présentent moins de garanties que Chris Froome. Chris Froome, on l'a dit, c'est le mec qui a gagné 4 Tours de France, c'est le gars qui a gagné 3 grands tours ou 4 grands tours consécutifs, je ne sais même plus d'ailleurs, entre ce qui devait être retiré et ce qui ne l'a pas été. Mais Thomas, on sait qu'il a eu une année exceptionnelle l'an passé, qui marchait un peu sur l'eau, mais cette année, on voit que c'est un peu différent, parce que bon, après, je ne veux pas me répéter, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais son début de saison n'est pas non plus exceptionnel. Et Egan Bernal, ça a beau être un monstre de talent, il n'a pas encore gagné de grand tour, il n'a pas encore supporté cette pression de tenir un maillot de leader, d'avoir à le défendre et d'avoir une équipe à son service. Donc, je pense que c'est surtout psychologiquement en fait que les choses ont changé chez les adversaires d'Ineos, c'est qu'il n'y a pas Froome en face. Donc, du coup, si on perçoit une faille, on hésitera beaucoup moins à attaquer. Surtout qu'il y a des garçons comme Vincenzo Nibali qui sort du Giro, qui n'ont pas grand-chose à perdre forcément. On voit que Thibaut Pinot a beaucoup de confiance. Le trio Movistar, c'est leur dernière chance, je pense. C'est la dernière année où ils seront ensemble, donc peut-être leur dernière chance de briller. Donc, pour moi, il y a quand même pas mal de facteurs qui m'amènent à penser que on aura moins peur de la Sky, ouais, dans le peloton.
Daniel, ouais,
c'est possible, Charles, mais effectivement, la problématique de savoir porter la course sur ses épaules en ayant un maillot de leader et en ayant à le défendre, finalement, il n'y a pas beaucoup d'équipes ou de leaders qui ont cette expérience-là, puisque que ce soit Kreuzweg, Pinot, Bardet, Fuglsang, ouais, Fuglsang un peu plus peut-être.
Ah, Kreuzweg, c'est sur un GT, sur un grand tour, pardon, oui, il n'y aura pas de neige normalement,
dans
le Galibier ou l'Isran.
Mais en tout cas, même au niveau des équipes, il n'y en a pas beaucoup qui ont les repères pour défendre le
maillot. Il y a la Movistar, quoi, c'est ce qu'on avait dit lors de la presse, c'est un peu eux qui ont la clé au final, s'ils arrivent à s'entendre.
Aujourd'hui, ils ont perdu assez gros également, puisqu'ils sont presque dans les temps d'AG2R. C'est à la fois Ineos est un peu affaibli, mais reste en position de force par rapport à tous les autres qui n'ont vraiment pas cette expérience-là. Et d'ailleurs, j'ai presque peur pour une équipe comme la Jumbo, même si elle est forte sur ce tour, est-ce qu'elle ne va pas se griller à défendre le maillot de leader pendant plusieurs jours? Est-ce qu'elle ne va pas être trop confiante et avoir un travers assez hollandais, assez traditionnel qu'on trouve même dans le football? C'est-à-dire que dès qu'ils se mettent à gagner, il y a une espèce d'arrogance qui arrive et ils font n'importe quoi. Donc ça va être intéressant de suivre un peu l'attitude des uns et des autres par rapport à tout ça.
Alors justement, avant de parler de l'étape de demain, Charles, Thibaut Pinot, ça continue à aller bien. Ouais, même à aller très bien. Il y a juste Gaudu qui s'est retrouvé le cul par terre, mais
Thibaut Pinot, ça commence à sentir bon. Enfin, ça sent déjà bon depuis quelques semaines, moi je trouve. Mais là, ils ont fait un super chrono, la FDJ. Je pense que l'objectif, c'était pas de gagner, mais c'était de perdre le moins de temps possible sur la Sky d'un côté, mais aussi d'essayer de reléguer les principaux adversaires pour le podium à derrière Thibaut Pinot. Et quand on s'attarde sur le classement, on voit qu'Adam Yates a, si je ne me trompe pas, 9 secondes de retard. Fuglsang, pardon, doit être à 9 secondes. Et derrière, la triplette Movistar doit pointer à environ une trentaine de secondes et Bardet encore plus loin, porte idem. Donc, je trouve que c'est une très belle opération pour Thibaut Pinot. Il se retrouve en position idéale sans non plus être trop près pour avoir à supporter trop de pression de la part des médias. Donc, pour l'instant, ça suit son chemin.
C'est alors bien. Juste deux, trois petits mots, Alexandre, qui nous dit que l'Adanius aussi serait tombé par terre. Et je vais juste réagir sur Katmapé qui dit « Je me demande si on ne va pas tomber sur une ère Bernal pour plusieurs années. » On remarque quand même que par rapport aux aires des coureurs ces dernières années, c'est des coureurs plus vieux en fait. Pas plus vieux la pluie, plus vieux l'âge. Que ce soit Indurain, que ce soit Armstrong, que ce soit Froome. Ce sont des coureurs qui ont commencé vraiment à partir de 26, 27 ans, 28 ans. Tous les jeunes pour qui on attendait qu'ils écrasent tout pendant longtemps, que ce soit Ulrich, que ce soit Quintana, on verra pour Bernal, chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas et ils se retrouvent face à un coureur un peu plus âgé et ils ont du mal. Oui, Charles.
Ouais, juste pour rebondir là-dessus, Max le pointe très justement. Il y a Remco Evenepoel et Tadej Pogacar qui pointent aussi le bout de leur nez. Donc bien malin, qui est capable de dire qui dans 10 ans, de Bernal, d'Evenepoel ou de Pogacar, sera celui qui aura le meilleur palmarès.
Mais on ne va pas parler de dans 10 ans. On va parler dans un peu moins de 24 heures, Greg. Alors, Bench, je ne sais pas comment ça se prononce. Désolé, les Belges. Épernay. Première étape vallonnée pour Puncher avec une succession de côtes avec des murs dans le final et les premières bonifications sur la route en haut de la côte de Mutigny. Alors Greg, à quoi on peut s'attendre demain ?
Alors faut préciser que les difficultés commencent à 40 km de l'arrivée. Hein, c'est-à-dire que l'étape est assez longue, 215 km, ça peut jouer. Mais que les difficultés vont commencer au kilomètre 173. Donc, on peut s'attendre à un début d'étape. Vous pouvez faire la sieste, je pense, et mettre le réveil un peu après. Mais après, voilà, je pense que ça va être très nerveux pour se placer dès la première côte et même après. Donc, il faudra faire attention aux chutes aussi. Parce que qui dit peloton, je crois, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'œil. Tout le monde est là. Toutes les équipes voudront être devant, que ce soit les leaders ou ceux qui jouent l'étape. Donc, j'imagine une étape très nerveuse. Et comme tu l'as dit, il y a aussi une nouveauté, c'est les points bonus au sommet de la côte, des côtes. Et donc là, ce sera au sommet de la côte de Mutigny, 900 mètres à 12%. Et je pense que ça va être aussi un enjeu. Ça serait curieux de voir qui va jouer ces bonifications.
Alors, je précise également une chose. Le vent sera demain aux environs de 15 km/h. Il forcira dans le trois quarts d'eau. Donc ça va aller vite. Trois quarts d'eau, c'est là où c'est le mieux pour faire des bordures. Bon, je pense pas qu'il y en ait forcément, hein. Mais c'est une étape qui va rouler vite. Et également, avant que je passe la parole à nos deux autres commissaires, regardez le sprint de Dizzy Le Gros, puisque du fait de la topographie du final de l'étape, on risque d'avoir tous les sprinteurs qui feront le sprint. Donc ça peut être sympa à voir. Charles, l'an dernier, on a eu une étape où on s'attendait à beaucoup de spectacles. C'était Quimper, c'était Peter Sagan qui avait gagné. Ils avaient été 38 dans le même temps. Est-ce qu'on peut espérer du spectacle ou est-ce qu'on doit être froid et même être pessimiste comme tel Max qui parle du cyclisme italien et se dire qu'il va rien se passer hormis un sprint de costaud.
En bon normand, je vais te répondre à un peu des deux, mon capitaine. Alors, je pense que le spectacle, c'est pas sûr qu'il y en ait parce que au final, il y a pas mal de côtes, mais c'est des petites côtes. Et encore une fois, on a affaire à des mecs qui sont à 100% de leur forme physique. Donc, je serais étonné qu'il y ait vraiment une grosse, grosse bagarre. Mais par contre, Greg a pour moi pointé l'élément le plus important tout à l'heure, c'est la nervosité. Je dirais qu'à partir du kilomètre 185, pour les 30 dernières bornes, ça va être extrêmement nerveux, surtout si on a vent de dos, comme tu l'as dit.
Il va y avoir des chutes.
Ça va aller très vite, j'ai peur qu'il y ait des chutes. On a 5 côtes en 30 km et très peu de temps mort. Parce que pour les 50 dernières bornes, il y a deux côtes en plus, mais après, il y a une longue descente. Donc, je pense que ça va se recalmer un petit peu, mais pour ces 30 derniers kilomètres, je pense que c'est vraiment là où ça va jouer, avec pas vraiment de période de répit et beaucoup, beaucoup de nervosité. Et il ne faudra pas avoir un incident comme a eu Fuglsang hier, parce que là, l'écart pourrait être très, très important. Quoi.
Alors Daniel, Tennyson est un jeune. Il est dans une équipe qui marche sur l'eau. Il y a Groenewegen qui ne passera pas, on le sait. Hein. Il y a Van Aert qui est un des favoris pour l'étape de demain. Kruijswijk qui semble très en forme, ils ont une seconde d'avance. Est-ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on pourrait espérer qu'ils tentent de mettre le feu en faisant peut-être un peu n'importe quoi pour tout faire exploser et aller gagner une troisième étape d'affilée ?
On ne va pas l'espérer quand même, mais je pense qu'entre Van Aert et Tennyson, à l'heure actuelle, c'est plus quand même la carte Tennyson qui va être privilégiée. C'est quand même un coureur qui passe bien aussi les bosses et les petites côtes, donc je ne le vois pas forcément lâcher. Après, comme disait Charles, il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit ça va quand même secourir relativement tranquillement, à part le petit stress à l'approche des montées, mais sans chercher à faire une grosse sélection. Et dans ce cas, ça se terminera au sprint, peut-être d'une cinquantaine de coureurs, voire plus. Et Tennyson pourrait en faire partie sans trop de problèmes. Si des équipes, peut-être comme De Koenig ou Alaphilippe, veulent vraiment mettre le feu, c'est possible. Mais et dans ce cas, le peloton sera encore plus réduit. Mais j'ai un peu du mal à me prononcer entre les deux scénarios, à vrai dire. Et en tout cas, je pense que c'est Jumbo. On va tenter de défendre le maillot jaune de Tennyson. Et au cas où, oui, Van Aert ou Kruiswijk seront à l'avant pour de toute façon le reprendre.
D'accord. Mais messieurs, je crois qu'on va faire nos pronostics pour demain. Alors, double pronostic. Qui gagne l'étape et qui est maillot jaune selon vous demain? Alors, je vous laisse réfléchir tout en disant à ceux qui nous suivent que c'est le troisième jour de course. Et souvent, on dit que le troisième jour de course, c'est là où ça commence un peu à tirer. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, les coureurs sont quand même allés puiser dans leurs réserves, même si c'est un effort court. C'est un contre-la-montre par équipe. C'est toujours quelque chose à ne pas négliger. Et il y a également un autre point qui peut faire basculer la course dans le final, c'est quitte de l'état de santé de Fuglsang. S'il commence à montrer les signes de difficulté, certaines équipes seraient bien inspirées d'accélérer le rythme pour l'éliminer définitivement. Je vous ai laissé suffisamment pour réfléchir. Je commence par Charles, vainqueur de l'étape.
La Philippe.
Et maillot jaune.
Wood van Aert.
Daniel.
Pour l'étape, je pense que c'est pour Matthews et Tennyson sera présent, donc il va garder son maillot.
Et Greg?
Je vais dire Valverde, tiens, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui. Et voilà, peut-être une piste de phare. L'année dernière, tout le monde annonçait les années précédentes, mais là, on ne le voit pas trop cette année, donc c'est lui que je vois, et je pense que Tennyson va réussir à garder son maillot.
D'accord. Alors pour ma part, j'ai envie de changer, de me dire quelque chose que personne n'a dit. Donc, victoire de Warren Barguil et Julian Alaphilippe, maillot jaune. Je pense que je n'ai aucune chance de gagner ce Tour de Paris. En tous les cas, on vous dit à demain pour débriefer cette étape, donc qui, on l'espère, sera animée. Et tout simplement, à demain. Bonne soirée, tout le monde. 19h30, comme d'habitude. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Ciao, ciao.